Bonjour, bienvenue dans les Landes du Ciel, émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Je me présente Yves De Angeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek, membre de l'Astro Club du Marsan.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous parlerons des constellations, groupe d'étoiles que les anciens ont assemblées pour se repérer dans le ciel. Quel était l'intérêt, quelle importance de se repérer dans le ciel ? Dès le début de l'histoire de l'humanité, l'homme a petit à petit découvert le ciel, a découvert des étoiles, a découvert des objets qui se déplaçaient dans le ciel. Et au moment où l'astronomie a commencé à se développer, où les scientifiques ont voulu commencer à échanger leurs connaissances, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas de repères, ils n'avaient aucun point de repère pour discuter entre eux. Donc l'intérêt, ça a été de nommer un petit peu ces petits coins du ciel pour leur permettre, quand ils échangeaient sur des données qu'ils avaient vues ou qu'ils avaient observées, de savoir exactement de quoi ils parlaient. Donc une définition du dictionnaire, une constellation, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe d'étoiles voisines, observées en apparence depuis la Terre, sur la sphère céleste, représentant une figure conventionnelle déterminée, à laquelle on a donné un nom particulier, mais c'est aussi une région de ciel conventionnellement délimitée qui inclut ce groupe d'étoiles. Alors c'est intéressant de voir observer en apparence depuis la Terre parce que dans les premiers systèmes du monde, dans les premières représentations du monde, les anciens, les Grecs, pensaient que toutes les étoiles étaient toutes à la même distance. Elles étaient comme fixées sur une sphère transparente et pour eux, il était naturel que toutes les étoiles, alors qu'elles étaient voisines dans le ciel, appartiennent à la même entité, au même regroupement, à la même constellation. Ici, dans les Landes, avec un ciel bien dégagé, on peut observer environ 3000 étoiles avec un ciel bien noir. Il y en a beaucoup plus de présentes dans l'univers, mais on regarde uniquement les étoiles qui sont très proches de nous, puisqu'à l'œil nu, on n'a pas de grandes capacités pour regarder ça.
D'où viennent les noms de ces assemblages d'étoiles ?
Ces étoiles étaient visibles depuis la Mésopotamie, avec les premières observations. On trouve des traces d'étoiles qui ont été référencées, qui ont été nommées dans des peuples très anciens. On estime à peu près 2000-2500 ans avant Jésus-Christ, les premières traces de ces reconnaissances d'étoiles. Au début, ces étoiles étaient vraiment uniquement pour une question, on va dire, utilitaire, c'est-à-dire qu'on avait détecté que, par exemple, Sirius, de la constellation du Grand Chien, quand elle se levait, ça correspondait à une certaine période de l'année. Et d'autres civilisations utilisaient ça pour les récoltes ou pour des fêtes qui étaient des fêtes religieuses. On a retrouvé des pétroglyphes en France, dans le Mercantour, qu'on peut dater à peu près entre 3 et 4 000 ans avant notre ère. Mais on trouve un peu partout dans le monde des traces des étoiles, des reconnaissances d'étoiles. Mais c'était à peine groupé, on va dire, en constellations. Ces étoiles, c'était les plus lumineuses du ciel, donc on prenait ces points de repère. Si on revient sur la première liste des constellations qui ont été présentées, on pourrait dire que ça date à peu près de moins 370, où Eudes a commencé à présenter, à regrouper ces étoiles sous forme de constellations. Il leur a donné les noms qui lui paraissaient les plus naturels, parce que certaines constellations ont des formes reconnaissables, d'autres c'est beaucoup plus compliqué, mais il a donné cette petite liste-là, et deux siècles plus tard, on retrouve Hipparque qui lui a fait un catalogue, un grand catalogue, avec plus d'un millier d'étoiles, avec 48 constellations qu'il a vraiment nommées et qu'il a situées sur la sphère des fixes, qui était cette sphère transparente sur laquelle étaient les étoiles. Quelques années après, Ptolémée a édité un document, une composition mathématique dans laquelle il réutilise en fait le travail d'Eudes et il rajoute des constellations, il rajoute de nouvelles étoiles. Et puis, ça va s'arrêter à peu près là parce que la civilisation grecque a commencé à décliner et l'astronomie s'est arrêtée.
Et il ne s'est rien passé pendant tout ce temps ? Et les Romains ? Ils ne se sont pas intéressés à l'étude du ciel ?
Si, ils se sont intéressés à l'étude du ciel parce que les astronomes romains étaient dans les écoles grecques. Et donc, quand la civilisation grecque s'est arrêtée, ils ont récupéré les documents. Et le monde arabe, à l'époque de l'Empire arabe, eux, ils avaient plus un travail, une réflexion qui était d'utiliser le ciel et de faire des cartes du ciel. Donc, ils ont vraiment cartographié toutes les étoiles. Ils ont fait des relevés complets un peu de toutes les étoiles. Et surtout, leur principal apport, c'est qu'ils ont donné des noms aux étoiles. C'est-à-dire qu'on va retrouver des noms arabes pour les étoiles principales de nos constellations. On peut prendre l'exemple d'Eneb, par exemple, qui en arabe veut dire la queue. Deneb, on va le trouver dans le Cygne, donc la queue du cygne, on va le retrouver Deneb Seti dans la queue de la baleine, on va retrouver ces mots un petit peu arabes dans toutes les étoiles principales qu'on va retrouver dans notre ciel. Mais pour eux, l'astronomie, au-delà de ça, au-delà des mesures, elle servait surtout, on va dire, au quotidien. Dans la religion islamique, c'était par exemple les heures de prière, calculer les heures de prière, déterminer où se trouvait l'Est. Donc c'était vraiment encore de l'utilitaire. Il y a eu très peu de travail, on va dire, de réflexion ou de compréhension du fonctionnement du cosmos dans le monde arabe. Il a fallu attendre un petit peu plus tard, à la Renaissance, pour que le monde arabe, à l'époque de l'Empire arabe, s'étendait jusqu'en Espagne, au nord, tout le pourtour de la Méditerranée. Et donc, à la Renaissance, où en fait les peuples européens se sont trouvés un peu plus libérés des contraintes, quotidiennes, pour se réintéresser un petit peu à cette science qu'est l'astronomie, ils ont commencé à s'y intéresser, on a commencé à refaire les catalogues, et globalement, on est à l'époque des grands navigateurs qui sont partis explorer un petit peu le monde. Et d'un côté, on avait l'héritage arabe avec les constellations de l'hémisphère nord, et rapidement, on s'est retrouvé avec des navigateurs qui refaisaient des cartes de l'hémisphère sud, et qui ont remonté des nouvelles cartes avec des nouvelles constellations. Alors à partir du 17e, on a eu à peu près tout le monde, tous les grands astronomes ont essayé de cartographier le ciel, chacun y allant avec ses nouvelles constellations, avec ses nouvelles idées. On peut citer Bayer, qui dans Uranometria, son principal travail est de donner des lettres grecques à chacune des étoiles, ce qui fait que maintenant, l'étoile principale, la plus lumineuse de cette constellation, elle s'appelle Alpha, la seconde, elle s'appelle Beta. On a Hévélius, on a Schiller, d'autres personnes qui ont fait des atlas. Et il y a eu des tentatives d'atlas qui étaient, on va dire, intéressantes. Quand on prend l'exemple de Schiller, par exemple, lui, il a repris le ciel et dans le ciel, il a mis planétarium stellaire de Chrétien. C'est-à-dire qu'il a remplacé toutes les constellations de Ptolémée avec les apôtres, avec l'Arche de Noé, avec tout ce qui appartenait au monde chrétien. Bon, cette carte céleste n'a pas résisté très très longtemps. Et à partir du 18e siècle, on a encore des nouveaux astronomes qui, dès qu'il y avait un endroit du ciel ou qui n'était pas répertorié, se débrouillaient pour trouver une constellation qui allait dedans. On a même vu après... un atlas révolutionnaire où on remplaçait les constellations de Ptolémée par les grandes figures de la Révolution française.
Finalement, chacun construit le ciel comme bon lui semble.
C'était un peu ça. C'était vraiment que chacun voulait marquer de sa patte un petit peu la connaissance générale. Et comme ça devenait un petit peu n'importe quoi et que l'idée principale au départ était que les astronomes puissent discuter entre eux, c'était complètement perdu. Donc en 1930, l'Union Astronomique Internationale a arrêté le nombre de constellations à 88, donc 44 dans l'hémisphère nord, 44 dans l'hémisphère sud, et a fixé aussi à délimiter les surfaces de ces constellations. Puisqu'au-delà des étoiles les plus lumineuses, il fallait quand même délimiter des périmètres pour permettre... On sait que l'astronomie depuis Galilée, on a la lunette, on a eu des lunettes, Newton a fait des télescopes, et on sait que on voit de plus en plus d'étoiles faibles, et il faut réussir quand même à les positionner par rapport à un environnement. Donc on a découpé la voûte céleste en petits territoires, où chaque découverte maintenant sera nommée, et on pourra vraiment savoir exactement à quelle constellation appartient la nouvelle découverte.
Les noms de ces constellations est différent que l'on soit dans l'hémisphère nord ou dans le sud. Pourquoi ?
Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que dans l'hémisphère nord, on est sur une grande histoire vraiment très longue où les Grecs et même ceux qui précédaient les Grecs, les Mésopotamiens, ont essayé de mettre dans leur ciel les dieux, les éléments qui étaient importants pour eux. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver dans l'hémisphère nord, par exemple, le bélier qui raconte le bélier, la toison d'or, Jason et les argonautes. Donc on a mis le bélier. On a mis Hercule qui est dans la mythologie pour Homère, a fait les 12 travaux. Et dans le ciel, on va retrouver le cancer qui a voulu s'attaquer à Hercule lorsqu'il combattait l'hydre de Lerne. On va retrouver le dragon qui était le gardien des pommes d'or du jardin des Hespérides. On va retrouver l'hydre femelle, donc c'était l'hydre de Lerne. On va retrouver le lion, qui était le lion de Némée. Donc on a mis toutes les histoires, toutes les légendes du quotidien des Grecs ont été mises dans le ciel. Alors que globalement, dans l'hémisphère sud, C'est les navigateurs qui ont donné ces noms-là, et donc ils ont donné des noms qui correspondaient plus à leur quotidien à eux. Donc c'est pour ça qu'on trouve des noms qui sont un peu moins romantiques, un peu moins fantastiques. On va retrouver par exemple le télescope, la table, l'atelier du sculpteur, la règle, la machine pneumatique, le microscope, le compas, la croix du sud, la boussole. Donc vraiment des éléments qui étaient de leur quotidien à eux, mais quand même dans l'hémisphère nord, c'est quand même beaucoup, beaucoup plus sympa.
Alors moi, quand je regarde la Grande Ourse, je ne vois qu'une casserole.
Oui, effectivement, c'est vrai que quand on regarde la Grande Ourse, si on ne connaît pas les limites vraies de la constellation, on a vraiment l'impression que c'est une casserole. Mais cette casserole, elle a intéressé quasiment tous les peuples. Pour nous, bah, c'est l'ours. Pour les Grecs, ça avait une signification. La Grande Ourse, le grand chariot. Pour les Arabes, c'était le corbillard avec les pleureuses. On avait le corbillard qui correspond à la casserole, et le pleureuse, c'était la queue, on va dire, de l'ours. On avait le char du souverain pour les Chinois, l'hélice pour les Grecs, parce que quand on regarde la Grande Ourse, eh bien, elle tourne autour du nord et on a l'impression que c'était comme une horloge. Le char d'Arthur pour les bardes du Moyen-Âge, le char de David pour les paysans, les sept sages pour les hindous, la charrue pour le Royaume-Uni, la cuillère en Amérique du Nord, le wagon de Charles, apparemment Charlemagne en Scandinavie, et les sept bœufs pour les latins. Alors les sept bœufs, c'est intéressant parce que sept bœufs, si on traduit ça en latin, ça veut dire septem triones, et ça veut dire septentrion, et donc c'est le nord. Donc on a utilisé cette connaissance de la Grande Ourse pour donner des noms, hein, du terme du langage habituel. Hein. Donc la Grande Ourse, c'est une constellation qui est énorme. Quand on la regarde bien, c'est la troisième plus grande de notre ciel, parce qu'au-delà de la casserole, eh bien, si on regarde un petit peu en dessous, on a les pattes arrière, on a les pattes avant, on a même la tête, c'est une constellation qui est très très grande dans notre ciel. Il faut avoir des ciels de qualité, de bonne qualité, pour réussir à voir la totalité de la Grande Ourse, mais c'est vraiment une constellation énorme. Et qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre d'important dans notre ciel ? Ben, tout à l'heure, j'ai parlé de Sirius. Donc Sirius, cette étoile que les Égyptiens avaient surveillée parce que ça donnait les crues du Nil, c'est qu'à partir du moment où on avait Sirius qui s'élevait parfaitement à l'est, ça correspondait à une saison. Et cette saison leur indiquait qu'il allait commencer à avoir des crues et qu'après, il allait faire chaud. Et donc, ça rythmait leur vie, ça rythmait leur année, ça leur permettait de dire que, OK, les crues du Nil vont arriver, dans quelques temps, on pourra faire les semis. Et donc, le grand chien, il s'appelle Canis, et quand on décline un petit peu Canis, ben vient canicule, et ce qui donne l'information, on veut dire que ben, dès qu'on voit le grand chien qui s'élève à l'est, la chaleur va arriver. Donc ça a marché pendant un temps, mais c'est vrai qu'il y a, il y a eu un petit décalage qui fait que c'était plus utilisé après, mais on a toujours, en fait, ces reconnaissances un petit peu de constellations. Des noms, quand on regarde, si on regarde les civilisations, tout le monde a repéré, on va dire, les principales constellations. Le cygne, qui est très voyant, puisque le cygne, c'est quand même un objet où on voit vraiment les deux ailes qui s'étendent par un corps et un cou très long. Pour notre civilisation, c'est un cygne, mais pour d'autres civilisations, certaines ont déjà trouvé le cygne, d'autres ont trouvé d'autres significations. Mais les étoiles principales, tous ces objets, on va dire ces constellations très très marquées, elles ont été déjà globalement, en fonction des civilisations, chacun a donné un petit peu sa correspondance. Hein. On a retrouvé dans la religion hindoue, on retrouve les dieux qui sont en place. En Chine, on utilise les maisons du ciel qui sont un petit découpage. Et qui certaines fois reprennent les mêmes constellations, parce que quand on a 4 ou 5 objets, 4 ou 5 étoiles très lumineuses l'une à côté de l'autre, forcément on a envie de les rassembler. Donc on retrouve à peu près les principales constellations, quelles que soient les civilisations.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition, 1, and may God's love be off. With you. This is ground control to
Les constellations que l'on voit aujourd'hui sont les mêmes que par le passé?
Eh bien non, justement, parce que, comme on l'a vu, au fur et à mesure de l'évolution, chacun a voulu faire ses petites constellations, son petit atlas, son petit truc à lui. Donc c'est compréhensible d'un côté, parce que il faut savoir que l'astronomie, elle émane de la philosophie dans le monde grec. Et la philosophie, ne pouvait être philosophe, ne pouvait monter des écoles de philosophie que des scientifiques qui étaient financés. Qui était financé par ou par les rois et les empereurs ou par des grandes familles nobles. Et pour faire de l'astronomie, il fallait forcément avoir des financeurs. Parce que l'astronomie, à part regarder le ciel et déduire, on ne produit rien, à part de la connaissance. Et les astronomes avaient besoin d'avoir des gens qui payaient, qui finançaient. Donc les astronomes avaient la connaissance du ciel et étaient utilisés pour faire des présages, faire... des prédictions, il maîtrisait le cycle des éclipses, donc il pouvait dire là vous pouvez attaquer, il y aura une éclipse, ça va faire peur aux autres et les autres vont partir et on va gagner. Ou prédire, il utilisait le ciel d'un point de vue astrologique, mais c'était astrologique et mercantile, c'est-à-dire que le fait de faire des présages lui permettait de financer et de vivre. Donc naturellement, ils ont été obligés de rendre l'appareil, et donc les constellations, on va retrouver des constellations qui ont disparu, on va retrouver chaque astronome essayer de plaire à celui qui le faisait vivre. On va retrouver le chêne de Charles, qui était en hommage au roi Charles II. On va retrouver la couronne de Firmian, qui est l'archevêque de Salzbourg. On va retrouver la harpe de Georges, pour le roi Georges III. Des constellations qui s'appelaient l'honneur de Frédéric, pour Frédéric II de Prusse. La main de justice, pour le roi Soleil, pour Louis XIV. Le taureau de Poniatowski, pour Stanislas Poniatowski de Pologne. Donc, tous les astronomes ont essayé d'inclure dans leur planiciel, ils ont essayé d'inclure des éléments qui rendaient hommage et qui faisaient fierté pour ceux qui les payaient. L'exemple principal qu'on pourra voir, c'est Galilée qui, lorsqu'il a découvert sa lunette, il a été observer Jupiter, et puis les satellites qu'il a découverts, en fait, c'est les satellites ensuite, il les a donnés, il les a nommés pour celui qui le payait. Et donc, dans chaque partie du monde, à tout moment, l'astronomie a besoin d'avoir des financements. Et donc, ce qui fait que, ben, effectivement, il y a eu beaucoup de constellations qui sont passées. Quand on regarde les différents atlas, on s'y perd parce qu'il y a des constellations qui ont existé, qui n'existent plus. D'autres qui ont été simplement renommées, d'autres qui ont été complètement, qui ont disparu. Donc, le ciel qu'on voit aujourd'hui, il est arrêté par l'Union Astronomique Internationale, ce qui fait que tout le monde discute exactement de la même chose.
Dans toutes ces constellations, c'est quoi le zodiaque ? Ce sont des constellations spéciales ?
Non, c'est des constellations qui sont tout à fait standards. C'est-à-dire que c'est des constellations qui sont reconnues parce que les anciens Grecs ont découvert qu'ils appelaient tout leur ciel étoilé, pour eux c'était la sphère des fixes. Et ils se sont rendus compte que devant ces fixes, ils passaient toujours au même endroit des points lumineux. Et ces points lumineux, qu'ils ont appelés astrera, voilà, donc planète, ils ont donné ce nom-là de planète, ça veut dire qu'ils tournent autour. Et bien, ils se sont rendus compte que, quelle que soit la période de l'année, ces points lumineux qui se déplacent passaient toujours sur la même bande. Donc les constellations qui avaient été déterminées à ce moment-là sont devenues naturellement des zodiaques. C'est-à-dire qu'on a défini que toutes ces constellations qui sont les mêmes, hein, il n'y a pas de qualité supérieure, il n'y a pas de valeur supérieure, c'est simplement elles sont dans l'axe où les planètes tournent, vues de la Terre. Donc cette bande, elle fait à peu près 17 degrés dans le ciel, et ben, ça nous permet, nous, de savoir que les planètes, ce n'est pas la peine de les chercher n'importe où dans le ciel. Elles seront toujours positionnées, elles passeront toujours dans cette bande du ciel. Donc pour nous qui sommes dans l'hémisphère nord, eh bien, ce sera toujours en direction du sud, et sur une hauteur qui est variable entre 20 et 50 degrés, 50-60 degrés. Ce n'est pas la peine de chercher une planète au nord, elle ne peut pas y être. Donc il y a 13 constellations qui ont été définies. Le bélier, le taureau, les gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le serpentaire, le sagittaire, le capricorne, le verseau et les poissons. On fait ce lien avec l'astrologie puisque peut y avoir un lien, mais globalement ce sont que des constellations standards comme les autres, comme la grande ours, la petite ours ou n'importe quelle autre constellation.
Oui, mais ça fait 13 constellations et 12 mois. Pourquoi ?
Effectivement, il y a 13 constellations. D'après le découpage qui a été fait des anciens, les planètes passent devant 13 constellations. Donc on ne va pas trop en parler de ça, ce sera l'occasion d'une autre émission où on va vraiment pouvoir faire la différence entre l'astronomie et l'astrologie, même si au départ ils se basent sur les mêmes points, sur la même observation. L'analyse qui en est faite est totalement différente. Donc ce sera l'occasion de faire une autre émission. Mais le zodiaque, on l'a retrouvé des zodiaques à 12 constellations. On le retrouve en Mésopotamie, par exemple. On va retrouver les 12 constellations en Mésopotamie. Le bélier s'appelle le journalier. Les gémeaux, les grands jumeaux. Le cancer s'appelle le crabe. Verseau, ça s'appelle le géant. Donc, ils avaient déjà détecté cette partie-là, ils avaient déjà quantifié cette partie-là. Et en Égypte, on va retrouver exactement pareil. En Égypte, on a le zodiaque de Dendera qui, lui, représente un petit peu le ciel. Et on a aussi une espèce de zodiaque. Donc, c'est les dieux du ciel. Par exemple, le bélier, c'est le dieu Amon. Les gémeaux, c'est Thoth et Sekhmet. Le cancer, c'est Isis. Le lion, c'est Ra. Donc, les dieux, les grands dieux, pour eux, représentent aussi ces zones du zodiaque et ces constellations spécifiques.
Ça doit être difficile de se repérer dans le ciel. Quand je regarde le ciel, tout se ressemble. Et les formes des constellations ne sont pas évidemment évidentes.
Oui, c'est vrai, parce que, à part celle dont j'ai parlé précédemment, quand on prend le cygne, on voit vraiment un oiseau avec les ailes déployées. Quand on prend le lion, on va voir un animal en forme de sphinx. Donc on peut dire, oui, effectivement, c'est un sphinx, c'est un lion qui est assis. L'ours, c'est plus compliqué. Donc l'aigle, on voit bien encore un oiseau avec les ailes déployées. Mais c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir s'imaginer que quelques points qui sont épars comme ça, on arrive à faire des personnages. On voit Persée, on voit Hercule, on voit tous ces personnages de la mythologie. C'est difficile d'imaginer que ça, c'est une personne. Alors pour nous aider, comme les Grecs, quand ils ont créé en fait ces constellations, comme ils ont mis dans le ciel leur dieu, ils ont mis dans leur ciel leur légende, eh bien ils ont mis dans leur ciel, ils ont fait des petits tableaux, des mini tableaux qui expliquent la vie d'Andromède par exemple, ou de Persée, ou d'Hercule. Donc on peut retrouver des petites scènes mythologiques, et ça va nous aider vraiment à reconnaître le ciel, parce que dans la totalité des histoires mythologiques, il y a toujours une constellation qui est facile à voir. Donc une fois qu'on connaît cette histoire, eh bien, on trouve la constellation qui est facile à voir, et en connaissant l'histoire, on peut, de proche en proche, construire notre ciel avec les autres intervenants de cette histoire. Par exemple, là, je vais vous parler de l'histoire d'Andromède. L'histoire d'Andromède qui va mettre en œuvre plusieurs constellations, on en verra. Donc Andromède, c'était au pays d'Éthiopie, vivait la reine Cassiopée, à côté de son épouse Céphée. Et la reine était très belle, elle était vraiment extraordinaire et tout le monde, tout le peuple l'admirait. Et un jour, en l'honneur d'une fête pour Poséidon, elle était vraiment, mais vraiment charmante, avec des cheveux noirs mêlés de rubis, un teint ambré, des yeux éclatants. Et tout le monde se pressait autour d'elle. Et dans les invités, quelqu'un lui a dit « Tu es aussi belle que les divines filles de Poséidon. » Alors bon, Cassiopée, elle dit « J'accepterais volontiers que tu me déclares encore plus belle. » Et là, l'ensemble des invités disent « Plus belle, oui, notre reine est la plus belle que les Néréides, les filles de la mer. » Personne ne fait vraiment attention à ce qui se passe, mais autour de l'endroit où se passait la cérémonie, la mer s'est arrêtée pendant un instant, et puis d'un seul coup, elle est retombée dans un grondement énorme. Bon, la fête continuait, tout se passait bien. Et le lendemain, il y a eu une énorme tempête qui n'était pas prévue, une énorme tempête qui coula quasiment la totalité des bateaux de pêche. Et un vent violent se leva, qui ramenait du désert des nuages de sable qui suffoquèrent la population. Et ça dura pendant 7 jours. Tous les jours, des tempêtes énormes. Au 7e jour, il y a un prêtre qui arrive, c'était le prêtre de Poséidon qui arrive au palais. Et la foule qui était en train de subir ce cataclysme, elle suivit en fait ce prêtre dans la salle du conseil où il rencontra donc directement Céphée et lui dit que « Roi Céphée, le pays est dévasté par la colère des dieux. Nous allons tous mourir. Poséidon a déchaîné sur vous tous ses fléaux pour venger l'affront subi par ses filles. Pour nous redonner la vie, Poséidon demande à ce que soit livrée Andromède, votre fille. » Donc c'était un coup dur. Il s'est rendu compte que la petite plaisanterie qui s'était passée pendant la soirée avait vraiment vexé Poséidon. Et donc pour sauver son peuple, Andromède, qui était la fille de Cassiopée, accepta d'être enchaînée sur un rocher dans l'attente de la décision de Poséidon. Elle était fière de pouvoir sauver son peuple. Elle était heureuse d'avoir un rôle dans la vie de son peuple. Mais elle déchanta très vite quand elle vit arriver un monstre marin qui sortit des flots. Une énorme monstre avec une gueule grande ouverte qui s'approchait d'elle pour la manger. D'un seul coup, en tournant la tête, elle voit apparaître dans le ciel un point très très lumineux. Et plus se rapprochait, plus elle distinguait qu'il y avait un bouclier qui était un bouclier étincelant. Et derrière le bouclier, il y avait un homme qui apparut sur un cheval ailé. L'homme, il s'agissait de Persée, qui venait de vaincre la Gorgone parce qu'il avait voulu prouver sa bravoure à un roi, donc il arrivait avec Pégase. Il s'arrête devant Andromède et puis il la regarde. Et après, il s'approche du roi. Le roi lui dit « Sauve ma fille, je te donnerai la moitié de mon royaume. » Et Persée répondit « Je ne veux pas ton royaume. Je te demande ta fille pour l'emmener comme épouse dans ma ville Arcos. » Le roi accepta. Persée s'approcha du monstre. Et comme il avait tué la gorgone, et tout le monde sait qu'une gorgone, lorsqu'on la regarde, on se transforme en pierre, eh bien il sortit de sa besace la tête de la gorgone qu'il venait de tuer, l'a mis en face du monstre marin, et le monstre marin se changea en pierre. Il put délivrer Andromède, et il partit avec elle à Argos, qui était sa ville natale. Donc c'est une belle histoire, tout se passe bien. Eh bien rien qu'avec cette petite histoire, on va retrouver Céphée, qui était le roi. En dessous de Céphée, on va retrouver Cassiopée, qui est reconnaissable dans le ciel avec un W, un grand W qu'on voit toute l'année. En dessous, on va trouver Andromède, accompagné de Persée. Et à côté d'Andromède, on va retrouver Pégase, qui était le cheval de Persée. Et plus bas, on va retrouver la baleine, qui était le monstre qui avait voulu l'attaquer. Donc voilà, on se rend compte que c'est une histoire mythologique, une vraie histoire mythologique, qui a été mise dans le ciel. Et les anciens se sont débrouillés à trouver des formes qui pouvaient correspondre pour mettre ce tableau mythologique dans le ciel. Et des tableaux comme ça, dans tous les coins du ciel qui ont été faits par les Grecs, eh bien on retrouve des scènes comme ça qui sont directement liées à l'histoire ou aux légendes grecques.
Le ciel est-il toujours le même au cours de l'année ?
Eh bien non, le ciel change tout le temps. À part les constellations comme la Grande Ourse ou la Petite Ourse, qui sont tout le temps visibles en direction du nord, une grande majorité de notre ciel va être des constellations de saison. Quand on va regarder au sud, ce sera des constellations. À partir de la Grande Ourse, on va pouvoir trouver le bout de la queue de la Petite Ourse. En prenant l'alignement du bout de la casserole, on tombe sur une étoile, ça c'est le pôle nord. Donc c'est l'étoile polaire. Et donc tout ce qui est situé entre l'étoile polaire et l'horizon, c'est des éléments qu'on verra toute l'année. Toutes les autres constellations, c'est des éléments qui vont être des constellations de saison. Donc on a des constellations qui sont d'hiver et d'été. Par exemple, quand on voit arriver Orion le chasseur, on sait qu'il va commencer à faire froid. Quand on verra arriver la Lyre, qu'on verra arriver les constellations d'été, on sait qu'on arrive au printemps, il va commencer à faire beau. Alors nous, on a un avantage, on va dire, dans l'hémisphère, à l'endroit où on est situé dans l'hémisphère nord, c'est qu'étant donné qu'on est situé à 44 degrés de latitude, on voit la totalité des constellations de l'hémisphère nord et plus de la moitié des constellations de l'hémisphère sud. Donc on aura vraiment un ciel qui va être changeant tous les jours. Donc dans la prochaine émission, nous parlerons des matériels et techniques d'observation qui permettent aux amateurs de découvrir le ciel, mais on parlera aussi des outils qui permettent aux spécialistes d'arpenter l'univers. Ce sera bientôt Noël, peut-être un télescope sous le sapin. Bonne fin de journée à toutes et à tous, et à très vite. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan et présentée aujourd'hui par Yves DeAngeli et Richard Bartek. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.